Salut à toi. Jeune femme, jeune fille, précoce, tardive ou en transition, mère, grand-mère ou nulle part, voilée flamboyante, vieille sorcière, guerrière, infirmière, lesbienne, bisexuelle ou hétéra, salut à toi.
La mince, la grosse, l'écolo, l'anarchiste, l'apatride. Toi qui es valide ou handicapé, toi qui sais que ton corps est plein de super-pouvoirs, salut à toi.
Avec toutes les nuances de ta peau, de tes origines, sociales, familiales, culturelles, avec toutes les nuances de tes idées, salut à toi.
On t'a fait du thé, viens.
Les violettes sont sur les ondes.
On va parler féminisme intersectionnel. Bonjour à vous, auditrices et auditeurs, et bienvenue pour la première émission de Violette sur les ondes, le féminisme intersectionnel dans les oreilles. Une émission proposée par l'association lilloise Chez Violette. Aujourd'hui, autour de la table, Claire.
Bonjour tout le monde.
Lise.
Bonjour.
Et moi, Michaela. Dans cette première, nous allons parler de notre militantisme, nos féminismes à nous, du concept d'empowerment et vous présenter nos coups de cœur artistiques et littéraires. Et pour commencer, je vous propose, Lise et Claire, de faire un peu notre météo. Comment ça va, Claire?
Eh bien, moi, ça va plutôt bien. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai commencé à bosser plus tôt ce matin pour être ici avec vous. Mais ça me fait plaisir que ce projet aboutisse enfin, donc je suis très contente.
Merci. Lise?
Bah écoute, moi je suis plutôt en grande forme. Je me suis levée un peu tôt ce matin, mais pour un truc assez génial. On a fêté l'anniversaire d'une copine sous forme de petit-déj. C'était une première et être entourée de femmes bienveillantes, très drôles et assez fantastiques et de scones fait maison, ça aide à bien commencer une journée. Donc je conseille à toutes et à tous de commencer ces journées comme ça. Et toi, Michaela?
Moi, ça va aussi. Comme Claire, j'ai commencé à travailler plus tôt pour pouvoir être là, enregistrer. Mais je suis super contente parce que c'est un projet qu'on mûrit avec Radio Moulin depuis un petit moment. Et donc, je suis super contente qu'on est enfin là pour enregistrer. Donc, voilà, tout va bien pour moi et j'ai hâte de continuer cette petite heure avec vous.
On a hâte, on a hâte.
Exactement. Et bah pour commencer, on se disait que peut-être pas toutes les auditeurs et les auditrices connaissent Chez Violette. Claire, peux-tu nous en dire plus sur Chez Violette?
Évidemment.
Merci.
Alors, Chez Violette, qu'est-ce que c'est? Chez Violette, pour moi, c'est d'abord un endroit où chacune peut venir passer du temps, échanger avec d'autres femmes, emprunter un livre ou boire un thé, ou même tout ça à la fois, parce que c'est toujours bien ensemble. Mais après, chez Violette, c'est aussi des activités, mais vraiment en tout genre. Il y a des projections de films, des ateliers, que ça soit couture ou peinture ou tout ce que tu veux. Des apéros littéraires, ça c'est mes préférés. Des petits déjeuners aussi, plein de discussions sur des thèmes très variés. Ça va de l'écologie à la sexualité, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et si l'activité dont vous rêvez n'existe pas, il suffit de venir la proposer à une assemblée de l'association et on organise ça sans problème. Pour nous, en tant qu'association, c'est vraiment très important d'être accessible au plus grand nombre. Alors l'adhésion et la plupart de nos activités sont à prix libre. Donc il y a un prix minimum, genre rien, et après celles qui peuvent se permettre donnent plus. Pour que en fait, toutes celles qui n'ont pas les moyens de se payer des activités qui coûtent cher en général à l'extérieur puissent accéder à ce que nous on propose. Par exemple, l'emprunt à la bibliothèque est gratuit du moment qu'on a adhéré à l'association. On a aussi une friperie solidaire et les vêtements qu'on peut trouver dans la friperie sont à prix libre. Ce genre de choses. Et en fait, au final, chez Violette, c'est surtout des femmes. Des femmes toutes différentes et qui ont en commun l'envie de combattre toutes les oppressions, comme le sexisme. Bon, celle-là, ça paraît évident. Mais aussi le racisme, la transphobie ou la lesbophobie et toutes les autres qu'on peut pas citer parce que malheureusement, il y en a beaucoup trop d'autres. Du coup, quand on est venu nous proposer d'animer une émission chez Radio Moulin, vous pensez bien qu'on était pleine d'enthousiasme. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on se mette d'accord sur le thème qui serait l'intersectionnalité. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était surtout apporter la convivialité et les échanges enrichissants qu'on peut trouver chez Violette à toutes les personnes qui ne peuvent pas venir nous rendre visite sur place.
Merci. Et à ce sujet, ça fait longtemps que vous êtes chez Violette pour nos auditeurs et nos éditrices. Comment vous avez connu l'association, Lise ?
Alors, moi, je suis arrivée à Lille il n'y a pas si longtemps. Ça fait 3 ans, en fait, que je suis lilloise. Donc, j'ai fait un petit tour d'horizon un peu des assos féministes, notamment, pour découvrir un petit peu de qui je me sentais proche, avec qui je pourrais être en connivence, on va le dire. Alors, ce que j'espérais secrètement, c'est de trouver un lieu hyper sympa avec des gens avec qui je pourrais rire. Ça a été le cas, en fait, chez Violette. Donc, j'ai connu Violette, je pense, la première année où je suis arrivée. Pas dans les premiers mois, mais je suis venue à la fameuse fête de fin d'année qui fait date à chaque fois et qui, à chaque fois, se finit par des danses endiablées et à des moments qui finissent très tardivement en général. Je connaissais personne et en fait très très vite on sent chez Violette que c'est un lieu hyper accueillant, c'est-à-dire que systématiquement quand je suis revenue depuis j'ai vu toujours la même chose, c'est-à-dire des personnes qui vous accueillent, qui vous demandent si vous êtes déjà venu, ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous cherchez dans ce lieu, etc. Et de fait, malheureusement, comme peut-être les gens qui nous écoutent, moi, je ne suis pas disponible les mercredis pendant les permanences. Donc moi, je ne suis pas disponible pendant les apéros littéraires et je ne suis pas disponible souvent quand la friperie est ouverte le vendredi. Alors du coup, j'essaye de venir quand je peux. Souvent, c'est des moments festifs. Donc j'ai servi des cocktails de Bloody Mary dans des coupes menstruelles pendant la fête d'Halloween. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir recroiser les unes ou les autres dans des manifs à différentes occasions, parce que les réseaux sont assez petits, et de proposer justement quelques petits ateliers qui me tenaient à cœur, des ateliers d'arpentage. Donc je ne fais pas partie des officiels de Violette parce que j'ai pas assez de temps à consacrer et un emploi du temps qui correspond pas trop, mais j'essaie d'être là le plus possible et en tout cas je suis vraiment ravie que ce lieu existe. Voilà.
Le message est bien passé, on va essayer d'ouvrir plus souvent.
On fera des apéros littéraires le samedi.
Oui, ou alors je peux aussi m'organiser pour faire des choses. Mais c'est vrai que c'est bien quand on profite de ce que proposent les autres.
C'est sûr.
Ça va dans les deux sens. Ouais.
Et toi, Claire, comment tu as découvert l'association ?
Moi, c'est beaucoup plus récent parce que je suis arrivée sur l'île il y a à peu près un an. Pas jour pour jour, mais quasiment. Et j'arrivais, j'étais en stage, je découvrais la ville, donc au début j'avais juste envie de rentrer chez moi en rentrant du boulot. Et puis au bout d'un moment, ça allait mieux, du coup j'ai commencé à chercher des activités à faire, des gens avec qui fréquenter en dehors du boulot, parce que mes collègues de boulot sont adorables, mais c'est pas des gens avec qui je sors le soir, quoi. Et du coup j'ai cherché une association féministe, en fait, parce que c'était totalement dans mes centres d'intérêt. Et en fait, je suis tombée sur Violette. C'est la première association sur laquelle je suis tombée qui avait un lieu dit. Et j'ai pris mon courage à deux mains un soir. Et puis, en quittant du boulot, au lieu de rentrer à la maison, je suis venue. Et je pensais juste prendre des infos et éventuellement revenir un autre jour. Et en fait, je suis restée pendant 3 heures parce qu'il y avait une discussion hyper enrichissante et qu'il y avait une bibliothèque. J'ai passé 3 quarts d'heure à regarder la bibliothèque. Et puis, je suis restée pour la discussion et je suis jamais repartie. Et du coup, maintenant, je suis une adhérente. On appelle ça une adhérente active, donc je participe aux réunions et j'aide à l'organisation. Encore pas assez à mon goût, j'aimerais bien avoir plus de temps, mais je suis déjà très contente de faire ce que tu veux. Et toi, du coup, Mihaela ?
Mais moi, d'abord, je me rappelle de ta venue, donc je me rappelle...
Oui, c'est toi qui m'avais accueillie.
Exactement, donc je me rappelle. Et maintenant, on est là, comme oui. Quoi, tout ce que peut offrir chez Violette. Moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis chez Violette. Au début, je venais un peu pour voir, un peu comme vous deux, pour découvrir une association féministe. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus, donc pour devenir aussi adhérente active. Et donc, ça fait peut-être 2 ans et demi ou 2 ans, je ne sais plus, que je m'implique vraiment dans la vie de l'association. Et avant, moi, cela fait peut-être 7 ou 8 ans que j'habite à Lille. Mais avant, j'ai fait plusieurs associations. Et ce que j'ai trouvé chez Violette, c'est vraiment... l'accueil, la convivialité, le partage, la sororité, l'empouvoirment dont on va parler aussi, mais aussi cette idée que on peut débattre, on peut exposer nos idées quand c'est fait dans le respect de l'autre. Il n'y a pas une ligne directrice de ce qu'on doit penser, de ce qu'on doit dire. Évidemment, les pensées transphobes, lesbophobes et ainsi de suite, racistes, ne sont pas autorisées. Évidemment. Mais voilà. Mais
heureusement,
tout à fait. Mais si on peut débattre, on peut discuter sur plein de sujets différents. Et donc, moi, j'ai retrouvé des personnes qui pensent comme moi, plus ou moins ou pas, mais en tout cas avec qui on peut discuter. Et le fait, c'est que l'avantage de chez Violette, c'est aussi qu'on peut proposer plein d'activités qui nous tiennent à cœur ou qu'on a envie de partager avec les autres. Donc ça peut être un arpentage, ça peut être une projection de film, ça peut être une discussion, ça peut être tout et n'importe quoi du moment qu'on a envie de partager avec les autres femmes. Et un autre point qui m'a séduit, c'était la non-mixité féminine choisie. Donc pour les personnes qui sont nées femmes, qui se sentent femmes, qui n'est pas très courant à Lille ou en France d'ailleurs, en France, ou en Europe, ou dans le monde. Moi, j'ai trouvé ça vraiment une force de pouvoir proposer ça, de pouvoir participer à ça. Et je me suis dit que ça correspond à mes valeurs et que je dois continuer dans cette association.
Il y a aussi un point super chez Violette, c'est que c'est une autogestion qui est réelle, expérimentée et quotidienne. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise chez Violette. Quand je suis arrivée, la dimension assez évidente du fait que je partageais la plupart des perspectives politiques en fait sur le féminisme qui était le mien, ça c'était déjà une très bonne surprise. Mais derrière, parfois, dans certains groupes qui sont déjà existants, quand tu débarques un peu comme ça de nulle part, c'est pas toujours évident que cette question de l'autonomie ait du sens. Et en fait, alors si vous n'êtes jamais allé chez Violette, je vais faire une petite description. Vous avez des petits panonceaux absolument adorables qui vous expliquent, en vous prenant par la main, comment faire pour installer une table et des chaises, comment faire si vous voulez inviter lors d'un atelier des gens à boire un thé, si vous voulez lancer le chauffage, si vous voulez fermer le local avec les clés. Ce qui peut sembler des trucs vraiment très bateaux et un peu bêtes, quand je dis comme ça, installer une table et des chaises, ça semble compliqué pour personne. Sauf qu'en fait, ça permet de se sentir en droit de le faire tout seul, en permanence, sans poser de questions à personne. Et surtout dans cette idée qu'on y est tout à fait bienvenue, quelle que soit la proposition qu'on a envie d'y faire, à partir du moment où justement on est en accord avec les propositions générales de l'asso, des personnes qu'on a pu rencontrer, etc. Et ça, c'est hyper rare aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu qui est très ouvert dans tous les sens du terme. On peut s'en saisir, on peut y faire des choses, et on n'a pas l'impression de déranger quand on fait quelque chose sur place, quoi. Et ça, c'est assez génial aussi.
Exact, c'est tout à fait ça, c'est ce qui m'a plu aussi. Et le fait qu'on essaye de déconstruire un peu les relations de pouvoir entre nous. C'est ça. Du coup, ça nous aide après à déconstruire les relations de pouvoir à l'extérieur, travail, en famille. Ouais. Mais déjà, entre nous, il n'y a pas de pouvoir. Par exemple, le bureau de chez Violette n'a pas plus de pouvoir qu'une adhérente qui, pour la première fois, vient à une AG.
Donc ça, c'est vraiment... bureau parce que légalement, il faut qu'il y en ait un, parce que c'est une association, etc. Mais... Enfin, je veux dire, première fois, j'ai débarqué, je pense, j'étais au prochain CA, je suis arrivée un jour et la réunion d'après, c'était deux semaines après et j'étais pas... moi, dans ma tête, je me considérais un peu comme un bébé de l'asso, je n'osais pas trop proposer des trucs, mais du moment où j'exprimais mon avis, ça avait autant de valeur que celui d'une autre personne qui était là depuis beaucoup plus longtemps, comme toi, Michaela, par exemple, donc... C'est vraiment très, très agréable. Ouais.
Et j'ai rarement vu des AG avec un respect tel de la parole de chacune autour de la table. C'est-à-dire que c'est pas juste un principe du « on lève la main avant de parler », c'est que ça se fait de façon très fluide, pas artificielle. Et c'est un vrai plaisir parce qu'en fait, on s'écoute vraiment. Moi, je suis venue à une AG, je crois, pour proposer un atelier parce que pas souvent les AG sont des moments où je travaille aussi, mais bref. Mais en tout cas, pareil, je me suis pas sentie comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas eu l'impression de devoir batailler pour dire quelque chose. Et au contraire, il y a une grande bienveillance. C'était le petit moment publicité pour chez Violette.
Et en même temps, il est tellement bien qu'on a envie de partager ça avec le plus grand monde.
Exactement.
Et d'ailleurs, venez nous voir tous les mercredis de 18h à 20h et pendant dans nos autres événements. Et d'ailleurs, pour revenir un peu avant chez Violette, avant ce moment-là où on est autour de la table, comment vous avez découvert votre féminisme? Comment vous vous êtes dit féministe? Comment, quel est votre rapport au féminisme, à la militance? Donc, à quel moment ça a germé dans votre tête et vous êtes dit, à partir de ce moment... J'ai mis mes lunettes féministes et je ne peux plus voir le monde différemment. Claire ?
Moi, en y réfléchissant, je pense que dans ma tête, j'ai genre toujours été féministe. J'ai grandi, mon père, c'est le seul mec à la maison. J'ai grandi, j'ai 4 sœurs et une mère. Et ça n'abolit pas le patriarcat, malheureusement. Mais on est quand même amené à beaucoup d'autonomie. En plus, j'ai toujours été attirée vers les filières scientifiques, donc évidemment, là où il y a le moins de femmes, donc les maths et l'informatique, il y a 10% de femmes, pas plus, donc le féminisme, soit on se laisse écraser, soit le féminisme devient vraiment important. Mais en fait, j'ai conscientisé ça après le bac, au début de mes études supérieures, où j'ai commencé à plus avoir de temps seule sur Internet, du coup. Et vraiment, j'ai construit ma conscience féministe grâce à Internet. D'abord à des blogs, dont je ne me souviens absolument plus le nom, et après à des formidables groupes Facebook. Donc certains qui ne sont absolument pas en non-mixité, mais qui sont dans un but de pédagogie, où absolument tout le monde est accepté tant que on obéit aux modératrices et que on est là pour apprendre et pas dans un but de troller tout le monde. Et d'autres après, quand j'ai eu l'impression que mon féminisme était un peu plus construit et aussi par rapport aux autres oppressions, le racisme que personnellement je ne vis pas, la lesbophobie, tout ça, j'ai réussi. C'était pas non plus le but de ma vie, mais j'ai intégré d'autres groupes où là, pour le coup, c'était un peu comme chez Violette en non-mixité. Bon, ça reste sur Facebook, mais et c'était aussi très agréable. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à avoir envie d'un peu plus militer en vrai, en fait, physiquement. Sauf que j'étais dans une école en France, et en France, des associations féministes, genre au sein d'une école, c'est très rare, peut-être sur Paris, mais moi j'étais en province, donc il n'y avait pas ça. Et j'ai passé un an au Québec. Pour les études. Et là, j'étais dans une université et il y avait une association féministe. Et c'était genre le rêve. Et on était quatre, hein, franchement, on était quatre. On ne faisait pas beaucoup d'activités.
Ouais, mais c'est le Québec.
Et il y a des problèmes là-bas aussi, malheureusement, tout n'est pas parfait. Mais c'est surtout, c'est la première fois que je me retrouvais physiquement, en fait, un peu comme chez Violette. Bon, on faisait ça dans une salle de classe, il n'y avait pas du tout le cadre, tout ça. Mmh. Mais c'est la première fois que je ressentais cette ambiance de. C'était une association en mixité aussi. Cette ambiance d'inclusion et de sororité qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et du coup, en arrivant sur l'île, j'ai cherché. D'ailleurs, petite fierté personnelle, en postulant pour le stage qui m'a amenée sur l'île, en fait, il y avait une case hobby dans la fiche de renseignement et j'ai mis féminisme dedans et j'étais genre trop fière de moi.
Bravo.
Et du coup, voilà, et c'est comme ça qu'après, j'ai découvert chez Violette, j'ai fait mes premières manifestations pour le 8 mars cette année, c'était très, très cool. Et voilà. Et toi, Alice, du coup ?
Eh ben, écoute, alors, c'est pas que je prends un petit coup de vieux, mais on n'est pas tout à fait exactement de la même génération. C'est-à-dire que Internet, si, ça existait quand même quand j'étais jeune, mais non, mais de fait, c'est pas tout à fait les mêmes parcours en fait liés au féminisme. Je pense un peu comme toi, Claire. Fondamentalement, en fait, je crois que. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu une révélation à un jour donné, un moment spécifique, etc. Ça vient peut-être de traditions familiales qui n'étaient pas hyper marquées, mais en tout cas, j'ai une sœur également, hein, et on nous a toujours fait comprendre, à ma sœur et à moi, qu'en fait, on pouvait faire absolument ce qu'on voulait dans la vie à partir du moment où on avait envie de le faire. Donc, ce qui est quand même hyper, peut-être le principe éducatif le plus émancipateur possible. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, en tout cas du côté du cadre familial. Et peut-être l'autre chance aussi, c'est au moment où j'ai quitté justement la petite ville dont je suis originaire pour aller faire des études dans une plus grande ville, en province aussi. J'adore la province. Du coup, j'ai dû recréer intégralement un réseau d'amis puisque j'étais toute seule dans cette ville. Et j'ai croisé régulièrement plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes avec qui on avait des très très belles discussions, mais c'était pas dans un féminisme militant, c'était plutôt un féminisme assez quotidien. Alors j'ai eu l'étiquette de la nana qui faisait chier les mecs bourrés en fin de soirée dans les bars et qui leur lâchait pas la grappe et qui regrettait amèrement d'avoir fait une petite remarque déplacée. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, j'y ai réfléchi en fait quand on a un peu préparé cette émission, et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours cette question un peu de l'étiquette ou de la chose portée vers moi sans que j'ai l'impression spécialement de faire des déclarations enflammées ou des discours passionnés en permanence. Mais justement, quand quand j'ai changé de boulot récemment, donc quand je suis arrivée à Lille, je me suis rendu compte que les collègues qui ne me connaissaient pas personnellement, puisque j'avais été recrutée, partaient du principe que j'étais féministe et que c'était une évidence, en fait. Et je me suis dit, mais alors attends, qu'est-ce que j'ai dit ou comment ça s'est passé
pour
que
ce soit...
Et puis je me suis dit, ok, bon, en même temps, moi, ça ne me pose aucun problème, ça a l'air de poser de problème à personne, donc voilà. Et en fait, pendant des années, moi, on a monté une asso avec des copines, mais qui n'étaient pas sur des perspectives féministes, en tout cas militantes dans la droite ligne, avec forcément une sensibilité un peu de cet ordre, qui était plutôt du côté d'organisation culturelle ou artistique. Et j'ai senti justement, en arrivant à Lille, que c'était fantastique. J'y avais fait plein de choses, mais que j'avais besoin d'autre chose, en fait, pour moi, personnellement. Et que toutes les discussions que je pouvais avoir de façon un peu informelle avec les femmes qui m'entourent, avec les proches, j'avais besoin qu'elles prennent corps un peu autrement. Et donc, j'ai pas attendu d'arriver à Lille pour faire des 8 mars, ni des marches de nuit, ni voilà. Mais ça m'a donné, en fait, vraiment des perspectives. Et la militance s'est fait là depuis 3 ans, on va dire, donc c'est tout récent, en fait, c'est tout jeune vu mon grand âge. Mais ça me permet toujours et systématiquement, et c'est ça dont j'ai besoin, c'est d'être hyper stimulée par le fait d'avoir des conversations avec des gens avec lesquels je ne partage pas a priori toutes les opinions. Et donc j'ai trouvé ça chez Violette, également dans l'autre asso, organisation dans laquelle je milite, qui est le planning familial. C'est de rencontrer des femmes de plein d'origines, de plein d'âges différents, qui ont des pensées qui sont... avec lesquelles parfois moi je suis un peu mal à l'aise, mais en tout cas qui m'obligent à remettre en question systématiquement la belle assurance avec laquelle je me drape parfois quand je suis très sûre de moi sur certaines thématiques ou certains sujets. Et voilà, le sens principal, je pense, de mon parcours féminisme, c'est très très tôt avoir compris qu'en fait, juste écouter les gens quand ils te parlent d'une expérience personnelle ou d'une opinion qui est la leur, en fait, ça fait déjà beaucoup. Donc voilà. Et toi, Mihaela ?
En réfléchissant, là, je pourrais dire que j'étais militante féministe depuis mes 16 ans, même si à l'époque, je ne disais pas militante féministe, mais j'ai commencé à co-animer une association dans la ville dans laquelle je suis née et j'ai vécu, qui était une association destinée aux droits des jeunes et des enfants, et qui avait un pôle destiné aux jeunes filles et jeunes femmes. Et donc là, on a commencé à faire plein d'événements autour de ça, autour de l'égalité femmes-hommes, autour des féminismes, même si je pense qu'on n'utilisait pas forcément le mot. Mais moi, je faisais des formations peer-to-peer, donc des gal à égal sur l'égalité femmes-hommes, sur les droits des femmes, sur les discriminations, sur le viol, sur le consentement. Et donc là, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance de tombée dans ce milieu assez jeune, et parce que je ne l'avais pas forcément cherché, mais je voulais m'investir dans une association, et c'est arrivé que dans cette association-là, il y avait aussi des valeurs féministes qui étaient très fortes. Et donc voilà, c'est là que j'ai découvert faire des manifs, faire des luttes, organiser des manifestations. On a organisé aussi un théâtre social qui était autour de ces thématiques-là, donc très très jeune, j'ai baigné là-dedans, et ça a été extrêmement enrichissant pour moi, de point de vue de construire mon militantisme, mais aussi de rencontrer des personnes qui peut-être ne sont pas qui ont des origines différentes, qui ont une orientation sexuelle différente, qui sont des personnes trans par exemple, et chose que je n'avais pas forcément dans ma famille ou dans mon milieu d'amis très proches, mais que j'ai découvert là-bas. Et donc, ensuite, en ayant vécu dans différents pays, et j'ai été aussi dans plusieurs associations, et c'était toujours un peu un fil rouge dans ma vie. Et maintenant, en étant chez Violette, ça continue. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, mais que je n'ai pas réussi à exprimer tout de suite. Et d'ailleurs, c'est un peu comme toi, c'est les personnes autour de moi qui ont commencé à me dire « Ah, toi, en tant que féministe, qu'est-ce que t'en penses ?» Ce qui est problématique aussi, parce que moi, je ne représente pas toutes les féministes.
Mais on te posait l'étiquette
féministe. Mais voilà, on me posait l'étiquette et je devais réagir à tout ce qui s'est passé dans le monde et dans l'actualité en tant que féministe. Et donc, c'était un peu comme ça. Et maintenant, je le revendique, je l'ai mis sur mon LinkedIn, je l'ai mis sur mon CV. Ouais, je parle quand je fais des entretiens, je le dis systématiquement. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un conseil pour les auditrices qui nous écoutent et qui ont envie de le dire. C'est très facile de le dire quand tu es dans une association là, parce que si tu dis moi je suis chez Violette, je suis dans le planning familial, forcément on va te cataloguer comme féministe, donc il faut pas, il y a même pas besoin de l'exprimer. Mais moi je suis pour l'exprimer parce que de deux points de vue, si une entreprise ou quelqu'un ne veut pas parler avec toi parce que tu es féministe, bah, c'est peut-être pas la peine non plus.
Est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec eux?
Exactement. Après, parfois, il y a des situations où tu es obligé de travailler. Donc là, c'est autre chose. Mais si on a le choix, si on peut avoir le choix, bah, moi, je préfère le dire. Donc voilà, c'était un peu comme ça que ma vie a cheminé dans le monde du féminisme. Et maintenant, j'ai l'impression de toujours ne pas faire assez. De devoir toujours faire plus, de...
Ça, c'est terrible, ça.
Exactement, donc
Je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses dans ce club fantastique du « mais je pourrais faire tellement plus ».
Ouais, mais je pourrais sacrifier toutes mes soirées pour venir chez Violette et faire ci et faire ça.
Et même en dehors de chez Violette, de temps en temps, je fais des interventions sur l'égalité femmes-hommes. Je dis rarement sur le féminisme parce qu'il y a encore des a priori sur ce sujet. Mais parfois, je fais des interventions dans les entreprises que je connais ou des amis qui m'appellent. À chaque fois, je dis, mais il y a encore des choses, il y a encore des choses à faire. On n'est pas au bout, parce que si moi, je me limite à mon cadre familial, à mon cadre amical et à chez Violette, j'ai l'impression que le monde, il est hyper égalitaire. J'ai l'impression que tout se passe bien. Et dès que je fais un pas à droite et à gauche, et d'ailleurs, on a partagé, Claire, avec toi à plusieurs reprises sur un certain milieu de travail. Voilà. Et quand on rentre dans certains domaines, c'est plus du tout ça. Il n'y a plus du tout d'égalité. C'est des blagues sexistes et voire racistes et ainsi de suite. C'était... Voilà, moi j'ai l'impression de toujours pas faire assez, et en même temps j'ai eu un autre blocage en arrivant en France, de me dire comment être militante dans un pays qui n'est pas le tien, en quelque sorte, comment arriver en donneuse de leçons. Après je me suis calmée là-dessus, mais...
Non mais tu peux, moi je trouve que c'est bien en fait, parce qu'on oublie aussi parfois... à quel point il y a des choses qui sont problématiques au sein même d'une organisation étatique ou municipale et souvent c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Enfin, je vous avais parlé d'une situation là, que je pensais évoquer initialement, et ça m'y fait penser justement le moment où je retourne dans la ville dont je suis originaire un été, je retombe par hasard sur une amie qui me propose d'aller boire un thé chez elle. Et on discute, donc on passe un long temps ensemble, c'est hyper chouette. On s'était pas revus depuis 3 ans parce qu'elle était allée faire des études dans une autre ville que la mienne. Et on discute très très longuement, et elle me dit bah voilà, ça s'est hyper bien passé pour moi, j'ai fait des études d'espagnol, j'ai super envie de devenir prof, c'est génial, c'est merveilleux, tout ça, c'est hyper brillant. Et je lui dis ah bah c'est génial, moi les études que j'ai fait m'ont beaucoup plu aussi, j'ai très envie de devenir prof aussi. Et puis vient ce moment où je réalise en fait que ce qu'elle me dit en creux, c'est qu'elle ne sera jamais prof et qu'elle ne pourra jamais être prof en France, parce que pendant ces années justement où elle a mené ses études hors de sa famille, elle a choisi de porter le voile pour des raisons personnelles, religieuses, profondes, etc. Et que de fait c'était tout à fait incompatible avec la carrière dont elle rêvait. Et c'est un moment qui date, il y a un petit côté un peu naïf de ma part du moment où je réalise ça, parce que c'est une copine avec qui j'avais passé tout le collège, tout le lycée, etc. Mais c'est aussi le moment où je me suis rendu compte que l'espèce de rêve d'être prof qui était le mien, alors je sais pas si ça parlera à grand monde, mais bon, on est quelques-uns et quelques-unes comme ça, en fait c'était assez terrible quoi. Ça voulait dire que l'État français qui accueille tous et toutes, la méritocratie, l'espèce d'ascension à la française, tout le monde peut intégrer la société française à partir du moment où il a envie vraiment de s'impliquer dans un cadre, etc. Donc elle, jeune femme française, brillante, avec un parcours qui était tout à fait comparable au mien, n'allait pas avoir le même avenir que le mien du fait d'un choix personnel, mais qui était constitutif de ce qu'elle était, en fait. Donc, tu vois, quand tu disais qu'il y avait encore des critiques à faire à la France, bon, c'est une autre question. On fera peut-être, ou pas d'ailleurs, une émission sur ces questions. Mais en tout cas, voilà, il y a des petits moments comme ça au quotidien qui rappellent que quelque chose qui semble assez lointain, assez fluide, en fait, pose problème, et que c'est toujours bien de regarder les choses avec un œil qui est pas le sien, centré, comme tu le disais. Ouais.
Par contre, je me suis rendu compte de la force que j'ai eue de connaître le féminisme, les féminismes plutôt, dans différents pays.
Ouais.
Et finalement, on se rend compte que c'est pas si différent que ça. Le patriarcat, il est partout un peu pareil.
Oui. Ouais.
Et par exemple, en tant qu'étrangère, la vision que j'avais de la France, d'un pays de l'égalité où tout se passe tellement bien. Et en plus, moi, j'étais dans un lycée français quand j'étais jeune. Donc, j'ai aussi un peu grandi avec la culture française et voilà, avec les valeurs de la République, on nous expliquait ça. Et quand tu viens et tu vois bon, qu'il y a quand même l'inégalité sociale, elle est là.
Oui. Le racisme,
il est là. Oui. L'inégalité femmes-hommes,
le validisme
est là. Donc, en fait... tu dis ok, donc c'est peut-être pas aussi rose, même si bon, en effet, nous, moi au lycée et au collège, ce qu'on me servait, évidemment, c'est ce qui était dans les livres, c'était voilà,
c'est une vision biaisée de l'histoire, de toute façon,
tout à fait. Mais moi, maintenant, je suis contente de cette richesse que j'ai d'avoir pu rencontrer d'autres personnes de différents pays. Et voilà, je vous rassure, je me suis calmée après sur le sur le petit complexe que j'avais de comment militer dans un pays étranger. Et je suis contente d'être en France.
Et on est contente que tu milites ici.
Oui. Tu m'ôtes les mots de la bouche.
Tous les Lillois et les Lilloises sont contents que tu milites ici.
On verra après cette émission. Ah oui.
La France entière même.
Oui, exactement. Alors, Claire, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à ton militantisme ?
Oui, alors je remarque que tu as remarqué mon regard tout à l'heure un peu perplexe, parce que j'ai totalement oublié de parler de quelque chose que j'avais aussi appris sur Internet, qui était, on a parlé, si vous avez fait attention, dans le générique, on a parlé d'intersectionnalité. Le sujet sera sans doute abordé plus en détail dans un autre épisode, mais l'intersectionnalité, c'est... à la base, c'est de l'interaction entre deux oppressions que peuvent subir certaines personnes. Par exemple, être une femme et être noire, ou alors, comme ton ami, être une femme et porter le voile, par exemple, ça crée des nouvelles problématiques qui sont à l'intersection de deux problèmes, en fait. Et peu à peu, j'ai construit mon féminisme. Plus seulement un féministe qu'on appelle blanc, qui est le féministe le plus représenté en France, qui est juste le féministe qui parle des problèmes des femmes, mais aussi un féministe qui est plus intersectionnel, dans le sens où, quand je dis que je suis féministe, je me bats pas, je dis pas que je veux me battre seulement, bon, c'est quand même la moitié de la population, mais pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les femmes noires, pour les femmes grosses, pour les femmes qui ont un handicap quelconque, pour les femmes qui portent le voile, enfin... Pour toutes ces personnes qui, en fait, sont... Déjà, on parle pas beaucoup du féminisme, mais alors, tous ces problèmes sont totalement... ignorés, voilà, merci. Et dernièrement, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup confortée qui m'a un peu rappelé à moi ces problématiques, qui s'appelle Stone Butch Blues, de Leslie Feinberg, qui raconte, en fait, le parcours de Jess, qui est une lesbienne butch, donc une lesbienne qui a un aspect plutôt masculin, qui est probablement non-binaire, et ça se passe dans les années 40, 50, j'avoue que j'ai oublié la date, désolée. Mais à un moment, en fait, l'héroïne rencontre les femmes qui lancent un peu les débuts du mouvement féministe, et elle se fait totalement rejeter du mouvement féministe, par ces femmes, en fait, parce qu'elle a une apparence d'homme, parce qu'à l'époque, elle était en relation avec une lesbienne qui était très féminine, elle était très masculine, et du coup, les autres femmes l'accusaient, en fait, de vouloir juste continuer le patriarcat. Et elle raconte comment non seulement elle, mais aussi sa copine, qui était très féminine, donc, se sont fait totalement rejeter du mouvement. Et j'ai trouvé ça... Enfin, le livre m'a vraiment bouleversée. Et c'est vraiment... Je vous encourage à aller le lire. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très parlant et très choquant. Parce que le problème, c'est qu'elle raconte ça, c'était il y a 50 ans, 60 ans. Mais je suis sûre que ça arrive encore de nos jours. Ça a particulièrement résonné avec l'actualité. J'aime beaucoup lire. Bon, je parle d'un livre, donc effectivement, ça paraît normal, mais ça a particulièrement résonné à l'actualité. Par exemple, avec les sorties de J.K. Rowling dernièrement, donc l'autrice Harry Potter, qui a fait des sorties très très transphobes dernièrement, même un manifeste transphobe. J'étais totalement horrifiée. Et ça m'a vraiment. Ça m'a fait un peu. Bon, je ne dis pas que je l'oublie des fois. Enfin, peut-être, j'ai le privilège de pas de vivre qu'une oppression. Donc peut-être que des fois j'ai un peu tendance à l'oublier, mais ça m'a vraiment fait une grosse piqûre de rappel de je veux vraiment me battre pour tout le monde en fait, et pas juste pour les femmes blanches, aisées, catholiques, etc. Donc voilà.
Merci. Bah, en effet, on s'est retrouvés sur ces valeurs-là pour cette émission, parce que c'est un peu ce qui défend aussi chez Violette, c'est de lutter contre toutes les discriminations et toutes les oppressions qui peuvent exister et pas que se limiter à ce que nous on subit. Sinon, bah, finalement, il y a plein de choses que peut-être on ne connaît pas, mais merci de l'avoir précisé.
Merci de m'avoir permis de le redire parce que j'avais oublié.
Vous êtes fantastique.
Oh. Merci. Et la transition, elle est parfaitement faite plutôt. Parce que Lise, elle voulait aussi nous parler d'un coup de cœur artistique. Donc oui. Lise, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui ?
Alors, j'avais très envie, de façon générale, moi j'aime beaucoup parler de créatrices, de femmes artistes ou d'autrices qui sont pas très connues, un peu invisibilisées. Plus encore si elles sont toutes jeunes et justement qu'elles n'ont pas fait partie de cette première vague des féministes des années 70, et plus encore quand ce sont des femmes racisées par exemple, et ou lesbiennes, et ou en situation de handicap, et ou voilées. Voilà, les qualificatifs peuvent être nombreux. Et là j'avais envie, alors on verra si c'est pas trop pourri, je le referai peut-être une prochaine fois, vous me direz, n'hésitez pas à faire des retours. J'avais envie de vous parler d'une artiste qui s'appelle Ramaya Teguigné. Et c'est une artiste suisse, donc qui a 35 ans, qui a un travail à la fois de performance, d'installation, donc on peut considérer un peu comme de la sculpture si vous n'êtes pas très familier avec ce terme, et puis également de petites éditions d'artistes. Donc elle est également militante et membre de plusieurs collectifs, et elle circule ou elle vit entre Genève, Bâle et Cologne. Donc c'est une femme qui a fait ses études entre la Suisse et les Pays-Bas. Et donc de façon générale dans son travail, là j'ai envie de vous parler un petit peu de son travail en général, mais surtout d'une œuvre en particulier que je vais vous décrire. Je vais essayer de faire ça à peu près bien pour que ce soit assez visuel quand vous écouterez et que vous ayez envie d'aller voir un petit peu son travail. Donc dans son travail, elle s'est beaucoup intéressée à la façon dont la parole peut circuler, donc à la fois dans les réseaux et les cercles de relations, de façon informelle ou de façon un petit peu plus socialement construite, et notamment dans les réseaux artistiques, puisque c'est le réseau auquel elle appartient, puisqu'elle a fait des études d'art dans une école d'art. Alors en fait, elle s'est rendue compte que ces réseaux étaient aussi des cercles de pouvoir, des cercles d'exclusion et de représentation, et qu'il y avait un jeu très très fort de domination qui pouvait s'y mettre en place systématiquement, au quotidien et de façon récurrente. Et elle décide à un moment de sa vie, donc il n'y a pas très très longtemps, hein, parce qu'elle a 35 ans, de rejeter justement ce qu'on va demander à une jeune artiste, c'est-à-dire de se rendre à tous les vernissages et de faire le job, quoi, d'aller serrer des mains, papoter. Ah, en ce moment, je fais un truc absolument génial, c'est merveilleux, faudrait que je t'en parle, il faudrait qu'on se voit. Non, pardon. Par ailleurs, j'adore l'art contemporain, c'est ça, ce qui me permet d'en parler avec cette voix très désagréable. Et en fait, c'est pas tant qu'elle refuse ça par principe, il y a une partie qui est celle-ci, mais aussi parce qu'elle préfère consacrer du temps et de l'écoute aux échanges qui sont des échanges amicaux, des échanges interpersonnels, plutôt qu'au côté un petit peu artificiel justement de certains échanges publics. Et donc c'est dans cette veine-là de plusieurs œuvres qu'elle va présenter, qu'elle présente en fait dans une expo récente, une œuvre qui s'appelle the dinner party. Pour le, si je le traduis très mal, ça veut dire un peu le repas de fête, pour le dire en français. Et dans cette œuvre, en fait, ça prend l'apparence de grandes tables de cantine ou de restaurants communautaires. Ça ressemble un peu, si vous avez fréquenté des rues, à un rue ou à une cantine d'entreprise ou éventuellement à certaines cantines d'hôpital. Et en fait, elle met en place ces grandes tablées avec des assiettes parce qu'elle se demande qui est invité à la table, à la fois de façon très concrète, mais aussi de façon symbolique. Qui peut prendre la place autour de ces 6 grandes tables ? À chaque fois, il y a 4 mangeurs ou mangeuses, c'est toutes des mangeuses, mais elle se demande qui, en fait, peut prendre place à cette table ? Qui est légitime et qui s'y sent à l'aise ? Ces tables, ce sont pour elle des lieux de coopération, de conversation, aussi des lieux de partage de savoir et de co-construction de savoir, et aussi des espaces de collaboration. Et en fait, elle a envie de faire un petit peu comme elle en rêve. Donc elle imagine que sont présentes à ces tables des militantes, des artistes et des autrices. Uniquement des femmes, uniquement des personnes, en fait, avec qui elle aimerait manger. Donc des femmes puissantes qu'elle admire, qui l'inspirent, dont peut-être elle a un petit peu peur. Peut-être qu'elle a un petit côté fan absolu pour certaines fans, mais femmes. Mais en tout cas, voilà, elle a envie de ça. Un peu comme quand on imagine en fait avec qui on aimerait passer un petit dîner rêvé. Alors je vous poserai la question, les filles. Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir. Top chrono à partir de maintenant. Si vous aviez, alors on va pas faire 4x6, mais allez, 3 femmes ou 3 personnes avec qui vous rêveriez de passer une soirée et un super dîner, qui ? Alors, donc, elle imagine justement cette espèce de repas rêvé, et pour ce faire, en fait, elle imprime sur ses assiettes. Sur la table, il y a juste des assiettes. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de verre. Il y a juste des assiettes posées qui marquent la place. Et elle imprime sur ses assiettes des extraits de textes, donc des extraits de conversations, de discours. Et à chaque fois, ce sont des paroles qui proviennent de femmes racisées, féministes et militantes. Donc au lieu d'avoir, comme des fois, il y a ça sur les assiettes, il y avait ça chez ma grand-mère, des proverbes moisis ou des blagues un peu pourries, là, avec des caricatures un peu nazes, elle invite au contraire à la table les mots qui la portent, mais aussi symboliquement les femmes en fait, qui ont écrit et qui ont forgé ces mots et qui ont eu le courage en fait, de dire ce qu'elles ont pu dire. Alors, c'est aussi un petit clin d'œil, un peu rageux justement au féminisme blanc bourgeois et à l'espèce de groupe d'artistes féministes états-uniens, occidentales des années 70, parce que ça fait référence à une autre œuvre qui a exactement le même titre, qui s'appelle The Dinner Party, qui avait été créée en fait par l'artiste Judy Chicago, mais aussi un collectif de 400 femmes. Alors, très souvent, on l'oublie, et elle-même l'oublie, qu'elle ne l'a pas fait toute seule. Et dans cette première œuvre, 40 ans plus tôt, dans les années 70, elle se proposait de justement représenter un ensemble de 1038 femmes, donc soit par uniquement leur nom, leur signature au sol, soit par une série d'assiettes qui chacune représentait une personnalité artistique, philosophique, historique, qui était une femme importante. Alors pourquoi est-ce que Ramania Téguénié fait un petit coup de coude à Judy Chicago ? Parce qu'en fait, sur cette table, il n'y avait pas de femmes racisées. Enfin, presque. Il y en avait 2 sur 1038. Et petit commentaire que j'adore d'une artiste africaine-américaine qui s'appelle Lorraine O'Grady, qui est à peu près de la même génération. Elle a dit, super, en fait, une des seules invitées noires, qui est Sojourner Truth, qui est une militante, justement, qui a milité pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Lorraine O'Grady, l'artiste, dit « Sojourner Truth, la seule invitée noire, doit faire sans chatte », puisqu'en fait, chaque assiette représente un sexe féminin, en fait, une vulve. Et la seule assiette où la représentation n'est pas une vulve, mais une espèce de femme un peu tribale, exotico-sympathique, c'est celle de Sojourner Truth, qui était quand même militante pour l'abolition de l'esclavage. D'accord. Donc voilà, ça a été très commenté, très discuté. Si vous avez envie de vous y intéresser, vous le ferez. Mais en tout cas, en fait, vous voyez à quel point, en appelant cette œuvre-là, The Dinner Party, Ramaya Téguénié, et puis en présentant uniquement des mots, donne de la force et de la puissance à ces femmes qui, cette fois, sont invitées à table. Donc, pour vous donner quelques petits exemples, on peut y lire les mots de l'autrice et militante journaliste Rénie Edo-Lodge, donc, qui a écrit un petit bouquin dont on a un petit peu parlé, qui s'appelle « Pourquoi je ne parle plus de race avec les Blancs, donc un super titre et un super bouquin, avec une artiste qui s'appelle Adrienne Piper, qui est une artiste africano-américano-cubaine. Et si je ne raconte pas trop n'importe quoi, je vous en parlerai une prochaine fois parce que j'adore cette artiste. De Audre Lorde, qui est une poétesse noire lesbienne, mais aussi du collectif Moissy, donc, qui est un collectif afroféministe français. Et un des petits extraits, justement, écrits sur l'assiette préparé par Amaya Téguénier, que je trouve très très beau, c'est cette phrase, elle au pluriel, elle chip avec désinvolture au nez des oppressions, et je trouve ça absolument splendide. Je trouve que ça donne vraiment très très envie. Donc en fait, Amaya Téguénier, elle imagine un dîner un peu plus personnel, hors de la représentation de grandes figures à inviter dans un espèce de dîner de gala. Et c'est, même si c'est une œuvre un peu conceptuelle, peut-être un peu aride, si vous aimez les représentations finalement plus reconnaissables, les portraits, si vous êtes sensible plutôt aux questions de couleur, peut-être vous allez trouver ça un peu sec. Ça peut sembler un peu simple, mais c'est une œuvre qui, pour moi, est particulièrement forte. Puisqu'on se demande vraiment qui est invité à la table, qui a sa place à la table, et ce que j'aime plus encore, qui a sa place à la table même sans avoir été invité. Bon, et vous inviteriez qui, Claire? Est-ce que tu sais qui est-ce que tu inviterais? C'est dur, hein. Même ouais, moi, je ne sais pas trop. Hein, donc
Elle m'a regardé, pour ceux qui, du coup, vous ne voyez pas, mais elle m'a regardé griffonner des noms comme ça, en vitesse à côté du papier qui est devant moi, là. Alors, du coup, je réfléchissais, là, et à la réflexion, bah, du coup, ça va vachement refléter ce que je disais de mon féminisme, qui est vachement construit sur Internet. Et si je devais choisir trois artistes, enfin, pas des
trois personnes, artistes, trois personnes, qui tu veux.
Ouais, trois personnes, je commencerais par Lexi, qui est une féministe trans. Qui a un super compte Instagram agressively trans, qui fait c'est de la pédagogie en fait. Il y a des témoignages, il y a des points vocabulaires, les choses à ne pas dire. Elle déconstruit aussi parfois des commentaires haineux qu'on lui envoie, et c'est terrible à lire et se dire qu'elle en reçoit des dizaines, voilà. Et c'est une personne qui j'adore vraiment ce qu'elle fait, et elle en tant que personne dans les stories, ça me donnerait vraiment beaucoup envie de la connaître. Une deuxième personne que j'aimerais beaucoup inviter, c'est la militante et journaliste Rokhaya Diallo, qui est, bon, elle est quand même assez médiatisée. Elle a gagné une tribune dans un journal, je ne sais plus quel journal américain récemment. Enfin,
elle a un super podcast.
Et voilà, en fait, je la connais, je la connais d'après son podcast qui s'appelle Kif ta race.
Ouais, qui est super.
Qui est absolument génial, du coup, qui parle de racisme en général, mais c'est absolument fabuleux. Et la troisième qui est... à chaque fois que j'ouvre Instagram, c'est sur elle que je vais voir ses stories, parce que je l'adore, elle me parle beaucoup. Elle s'appelle Cordélia, et c'est une jeune femme qui parle en fait de littérature, surtout de la littérature jeunesse, SF un peu et un peu fantasy. Mais elle en parle dans une perspective de diversité au niveau... elle, c'est surtout à la base diversité au niveau de la représentation de genre et de sexualité. Donc, sur sa chaîne, elle a une chaîne YouTube, on peut y trouver des vidéos du type 5 livres avec des personnages, 5 romans d'amour avec des personnages gays, par exemple, ou ce genre de choses. Mais elle fait vachement attention à nous parler de livres où on a vraiment une grande diversité. Et elle a écrit des livres récemment, et elle a écrit un livre jeunesse récemment, qui est une histoire de vampire un peu comme Twilight, mais avec une gamine qui a une maladie chronique. Et en tant que personne qui a une maladie chronique, en fait, ça m'a beaucoup touchée. Il y a un vampire noir, ce qui est genre jamais présent dans la littérature. Bref. Et j'adore ses stories, elle me fait beaucoup rire et elle me touche beaucoup. Et voilà, je pense que ça serait les trois personnes.
Tu nous invites à ton repas?
Pas de problème. Mais du coup, on dépasse les quatre personnes.
Ouais, bon, je fais la cuisine si tu veux.
Ah, allez, si on va.
Je me cale dans un coin et puis j'apporte les plats. Et puis,
on viendra même si on n'est pas invité. Hein,
ouais,
donc.
C'est ça. Et toi, Mihaïla? Alors, sachant que je ne l'ai pas dit, mais moi, à mes dîners idéaux, à chaque fois, il y a toujours des morts. Hein, donc, des mortes. Hein, donc,
j'ai fait gaffe à choisir des vivantes.
C'était que des vivantes.
Oui, une personne qui est morte récemment. Okay. Donc, moi, c'est, du coup, j'ai pensé à Gisèle Halimi, qui est morte récemment, qui est une féministe, avocate, qui était à l'origine du mouvement des libérations des femmes. Pas elle, mais, pas elle toute seule, mais avec d'autres femmes. Et... son livre, ses écrits m'ont bouleversée, parce que moi, je l'ai découverte, du coup, assez récemment en arrivant en France. Je la connaissais pas avant. Mais vraiment, elle raconte son enfance où elle parle que déjà à 10 ans, elle a compris cette inégalité qui existait dans son pays où les filles étaient mariées très jeunes. Mmh. Et donc, elle a refusé un mariage, elle a poursuivi ses études. Donc, vraiment, ça m'a... Son histoire m'a bouleversée, en plus ses engagements, parce qu'elle s'est engagée aussi auprès des personnes sans papier, donc c'était pas qu'un engagement pour les femmes. Mais... Mmh. Et donc la cause la plus connue et peut-être la plus médiatisée, c'était la légalisation de l'avortement et le fait qu'elle a défendu une personne qui était accusée d'avoir fait un avortement illégal à l'époque, parce que c'était pas légal. Et donc, voilà, moi j'inviterai Gisèle Halimi par une séance de spiritisme. et sinon, je vais un peu tricher parce que je vais faire une petite transition avec ceux dont je vais vous parler après. J'aimerais bien inviter une essayiste, philosophe brésilienne qui s'appelle Jamila Ribeiro, que j'ai rencontré déjà ici à Lille.
La chance.
Oui, mais on n'a pas eu la chance de dîner ensemble. Donc,
elle
faisait une conférence et moi j'étais
c'est
dans...
C'est une invitation officielle.
C'est ça. Jamila, si tu nous entends, viens manger avec nous. Qui a écrit beaucoup sur les féministes brésiliennes, les afro-féministes brésiliennes justement. Ces écrits sont très très intéressants. Et donc, j'en profite par la même occasion de faire un petit lien avec la maison d'édition Anacaona, où vous pouvez trouver ses livres, qui est une maison d'édition qui a été créée par Paula Anacaona et qui se trouve à Lille. Et donc, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la littérature brésilienne. Et vous pouvez trouver des récits, des essais, de la littérature jeunesse. C'est vraiment extraordinaire parce que à chaque fois que j'ai lu un livre, c'était vraiment un bouleversement parce que c'était pas des livres anglo-saxons, c'était pas la réalité qu'on connaît.
Ça change de perspective.
Exactement.
En fait,
ouais. Et donc c'était extraordinaire. J'ai découvert la situation, par exemple, des esclaves noirs au Brésil. Ce qu'on sait, mais quand c'est pas les concernés qui parlent, c'est différent. Quand on lit dans les livres d'histoire, c'est différent. Et donc là, c'est les concernés qui parlent. Il y a vraiment un mouvement au Brésil d'empouvoirment justement autour de ces sujets-là. Et donc, ça m'amène à la question d'empouvoirment dont on voulait parler aussi dans cette émission. Et qu'est-ce que l'empouvoirement, en fait ? C'est un terme qui a été repris en français du terme « empowerment ». Et donc, en français, on dit « empouvoirement », « empuissancement ».
« Encapacitation ». ».«
Encapacitation ». Donc, il y a plein de néologismes. Et ça désigne le pouvoir, la capacité d'agir. Et au fait, ces dernières années, je trouve que ce terme, il a été un peu récupéré par la Startup Nation pour le vider de son sens, parce qu'il a été transformé vers des pratiques individuelles du monde du travail, de carrière. Donc en gros, pour moi en quelque sorte, pour transformer ça dans un leurre d'épanouissement personnel qui devrait camoufler qui devrait camoufler l'aliénation sociale dans laquelle on baigne à cause du néolibéralisme. Et donc, je me suis intéressée à ces questions il y a longtemps, mais je n'avais pas forcément ce mot-là à utiliser. Mais pour moi, l'empouvoirement ne peut pas être individuel. On ne peut pas être sans oppression, mais à titre personnel, ou comme je vous disais avant, si je regarde ma situation, j'ai l'impression que tout va bien. Et si je regarde, si je fais un pas à droite, à gauche. Donc pour moi, l'empouvoirement, ça doit s'inscrire dans une pensée collective et dans une action collective. Et donc lutter contre toutes les oppressions a pour but de faire une transformation sociale et pas personnelle. Or, maintenant, quand on entend tout ce qui est autour du coaching, et je ne remets pas du tout en cause le coaching, mais tout ce qui est autour de ce mouvement-là, c'est plutôt individuel. En gros, voilà, c'est
on perd de vue le collectif. En fait,
exactement, on a perdu ce mouvement collectif, justement. Or, pour moi, même en tant que femme, même en tant que personne racisée, on ne peut pas être empouvoirée. Personnellement.
Alors, en plus, je me permets de faire une mini parenthèse. C'est non seulement très individuel, mais c'est aussi dans des perspectives de productivité. Exactement, c'est-à-dire, c'est pour être le plus productif possible, ou le plus créatif possible. Le plus... Enfin, moi, c'est aussi ça qui me pose problème.
C'est-à-dire
que
ça.
Le sens de cet empouvoirment à la sauce néolibérale, c'est le fait qu'on puisse donner plus de soi et faire mieux et encore plus grand et encore
et
plus
être
fantastique.
Plus efficace au travail.
Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et ça, oui, c'est la partie vraiment un peu crado de la chose, quoi. Pardon, Mikhaïla.
C'était exactement ça. C'est oublier qu'on travaille 50 heures par semaine, mais quoi.
C'est ça.
Voilà, on va un peu s'empouvoirer toute seule dans son coin.
Du coup, ça va aller.
Et dans quelque sorte, tout va bien et on oublie que ça va pas. Donc ouais, c'est tout à fait ça. Et dans ce contexte-là, du coup, je vous conseille le livre de Joyce Bert qui s'appelle « Empouvoirment et féminisme noir » et qui est aux éditions Anacaona. Et donc, Joyce Bert est une intellectuelle brésilienne.
Peut-être tu peux épeler son nom. Pardon, mais...
Oui, ouais. J-O-I-C-E, Bert, B-E-R-T-H-E. Mais sinon, venez sur notre page Facebook. On essaiera de mettre...
On mettra les références.
On mettra les références. Et sinon, on essaiera aussi de mettre toutes les références sur la page Facebook de Radio
génial,
Moulin.
Génial.
Comme petit
ça,
moment autopromo. Ouais.
Exactement. Donc, likez les deux pages, chez Violette Lille et Radio Moulin. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Et elle parle justement de ça, elle rappelle aussi la notion de pouvoir, le fait que le pouvoir aussi n'est pas individuel, mais aussi doit être collectif, et justement le pouvoir de classe doit être collectif contre les oppressions. C'est une notion qu'on peut aussi retrouver chez Hannah Arendt, donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver les livres en ligne. Mais je vous conseille vraiment parce que quand on réfléchit à ça, du coup, toute la notion aussi de sororité, du collectif, de construire quelque chose ensemble prend aussi une autre dimension. Mmh. Et donc, je pense qu'aussi le mouvement féministe prend une autre dimension qui est beaucoup plus enrichissante parce qu'on se rend compte que on ne peut pas être exempte de toute oppression sans que les autres le soient aussi. Mmh. Mmh.
Waouh. C'est difficile de dire quelque chose après ça quand même, Mikhaïla.
Non, mais...
C'était bien.
Merci, je reviendrai. Ouais. Donc, voilà.
Bon, en tout cas, quand Mikhaïla nous... Enfin, en tout cas, moi, quand elle m'a parlé de cet ouvrage, je me suis sentie hyper triste parce qu'elle m'a dit que non seulement j'avais loupé la rencontre, mais j'avais loupé d'autres rencontres organisées par cette maison d'édition. Alors maintenant, je compte bien que tu nous informes quand il y a des rencontres à venir pour éviter que je sois un peu, comment dire, frustrée par ce défaut de présence. Voilà.
Sans faute, je vous appellerai toutes.
Génial.
Et donc, là, doucement, on se rapproche vers la fin de notre petite heure ensemble.
Ouais.
Est-ce que ça a été pour vous ?
Oui, je me demande si on n'a pas genre explosé le chronomètre.
Ouais, je crois qu'on est assez bavarde, en fait, hein, que ça marche assez bien. Moi, j'avais un peu envie que Claire nous parle de son petit mini moment empouvoirant tout à l'heure, ce qu'elle nous a dit juste avant qu'on commence l'émission, parce que je trouve que ça fait du bien aussi. Alors,
En fait, pour la petite histoire... On s'apprêtait à s'asseoir pendant une heure et parler, donc tout naturellement j'ai voulu aller aux toilettes. Et en fait on enregistre dans un endroit, bon vous entendez c'est un peu bruyant, on est dans un bar, mais c'est un bar dans lequel j'étais jamais allée. Et du coup j'étais jamais allée dans...
Qui s'appelle La Moulinette.
Qui s'appelle La Moulinette, pardon j'avais oublié le nom. Et j'étais jamais allée dans ces toilettes. Et je me suis sentie, je suis ressortie des toilettes et je leur ai dit mais c'était trop bien. Pas parce que j'y ai fait, non, faut pas exagérer, mais non seulement il y avait des protections périodiques qui étaient proposées à la disposition de toute personne qui en ressentirait le besoin, et déjà ça c'est rare dans des lieux publics, et c'est vraiment agréable en fait d'avoir ça à disposition, et en plus sur les carreaux il y avait un tag fait au marqueur qui disait pas de féminisme sans les trans, et
oui.
Voilà, ouais, c'est ça. Ça montre tout de suite l'état d'esprit du lieu, en fait. Et tout de suite, on se sent vachement plus... Enfin, on se sent un peu rassuré, en fait, sur les convictions politiques des gens qui tiennent le lieu. Et ça fait vraiment du bien.
Mmh. On se sent un peu accueilli.
C'est
fait.
Ça, c'est ouais. Ça. Même... voilà, je suis pas concernée par ça, parce que je suis cisgenre, mais ça fait vraiment du bien de se rendre compte.
Ça permet de se dire qu'on peut venir avec... Tous voilà, ses amis sans aucun problème.
C'est ça.
C'est pas mal.
Et même juste que le fait que les personnes qui tiennent ce lieu se positionnent sur ça, c'est vraiment cool, je trouve. Donc voilà.
D'ailleurs, venez, si vous ne connaissez pas la Moulinette, c'est boulevard Victor Hugo à Lille. venez découvrir ce petit lieu qui est vraiment très sympathique.
Et on peut les remercier de nous avoir accueillis, par exemple.
Merci la Moulinette, si tu nous écoutes, j'espère que oui. merci à Laurence et à ses collègues, parce qu'on connaît Laurence qui vient aussi de temps en temps chez Violette. Et merci à Radio Moulin qui nous a offert cette possibilité. Merci à Pauline qui est là en régie. qui nous a briefé, qui a fait depuis 2 ans, je crois, un travail extraordinaire sur Radio Moulin avec Aurélien, avec tous les bénévoles et avec tout le monde. Mais voilà, c'est vraiment un super projet. Donc merci. On est contente de faire partie de cette aventure aussi.
Oui. On espère que ça vous aura plu.
Ouais, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On espère que ça a été enrichissant, que ça vous a donné envie de découvrir les concepts, les notions dont on a parlé, de découvrir chez Violette, de découvrir d'autres émissions de Radio Moulin.
Alors, on espère surtout qu'on n'a pas complètement sapé le travail des futures personnes qui viendront vous parler, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais en fait, à chaque fois, ce seront des gens différents et différentes. Alors, nous qui faisons la première émission, c'est un peu le crash test. C'est-à-dire que si vraiment vous nous avez détestés, s'il vous plaît, on vous en supplie, écoutez la seconde émission. Peut-être que vous l'adorerez, ce ne sera pas nous. Donc voilà.
C'est bien de le préciser.
Effectivement.
Et merci aussi Claire et Lise.
Merci à toi.
Merci
beaucoup. À bientôt.
À bientôt.